Bonjour Hélène Cruciani, bienvenue à l'émission Dounia reçoit, donc de la tribune des vagabonds du rêve. Je te remercie d'avoir accepté de venir partager avec nous ton écriture, tes romans, tes nouvelles et donc on va discuter, on va filer un petit peu, tu nous liras des extraits, ce qui nous mettra vraiment dans le bain et puis on finira sur ton prochain projet. Donc je voudrais bien commencer, que tu te présentes. Tu as édité dernièrement une nouvelle, je ne sais pas si c'est la dernière, un Omamori Rouge et Or, donc dans l'anthologie, dans la fameuse anthologie donc, de Imaginaire, qui s'appelle Orient Extrême et qui est sortie l'été dernier. Et
Oui.
avant ça, tu en avais publié d'autres, soit dans des anthologies, soit dans des. Principalement dans des anthologies. Tu as aussi publié deux romans assez puissants, dont tu nous parleras. Voilà, avant, j'aimerais bien que tu te présentes, que tu nous parles un peu de toi en tant qu'écrivaine, créatrice, en fait, tout ce que tu fais. Et après, on entrera dans le vif de l'écriture. À toi.
D'accord, bah moi je voulais d'abord te remercier hein, pour ton intérêt envers mes écrits et je
C'est.
voudrais aussi saluer en fait tes nombreuses activités, parce qu'on ne parle jamais de l'intervieweuse dans le
Pas
monde
trop
de
longtemps.
l'imaginaire. Voilà, parce que toi tu es à la fois autrice, jury de concours, tu fais beaucoup de choses, hein, tu es rédactrice de chroniques, animatrice de table ronde, d'ateliers d'écriture, donc voilà, et tu prêtes même ton regard en tant que bêta lectrice à plein d'auteurs et tu as la gentillesse de le faire pour moi.
C'était un plaisir.
Voilà, et donc voilà, je voulais souligner que c'était grâce à des gens comme toi, en fait, des personnalités généreuses qui comptent pas leur temps, voilà, que le monde de l'imaginaire se donne à voir, en fait, et puis ouvre grand les bras aux nouveaux arrivants.
Oui.
Donc je tenais à dire ça d'abord. Et pour me présenter, je peux peut-être parler de ma formation,
Vas-y.
peut-être. Hein, voilà, donc j'ai fait des études d'ingénieur en France et à l'étranger, en Angleterre. J'ai également étudié les arts du spectacle, son théâtre à l'université de Nice, hein,
Ah
où je travaille.
oui, je travaille.
Voilà. J'ai dû hélas m'arrêter donc au ce qui est maintenant le master 1, parce qu'en fait pour le master 2 on devait faire des déplacements et comme je venais d'avoir un enfant donc j'ai pas pu continuer et finir par une thèse. Hein. Donc je me suis également aussi formée à la manipulation des marionnettes auprès de la compagnie Arquetal cannoise. Et j'ai suivi donc de nombreux stages. Donc, au total, donc, j'ai fait pas mal d'années d'études, on va dire, de formations très différentes. Et c'est particulier, mais c'est le contre-coup, je pense, d'une grande frustration que j'avais eue face à la nécessité qu'on a de se spécialiser très tôt, en fait, d'abandonner, pour moi, les lettres, le latin, les langues vivantes que j'adorais pour plus pratiquer que les maths et la physique. Et donc, j'aurais largement préféré voilà, une formation plus humaniste, celle dont Gargantua parle à son fils Pantagruel, par exemple, au Rabelais, où on
Oui,
développe
c'est.
tout ce qu'on peut. Voilà, donc, du coup, j'ai eu des expériences professionnelles variées, un peu à l'image de cette formation, hein. J'ai exercé en tant qu'ingénieur, j'ai été professeur d'art dramatique aussi, comédienne, marionnettiste, j'ai fait de l'animation marionnette, animé des stages de fabrication pour les enfants, les adultes. Et bien sûr, donc, je suis autrice dans le domaine de la science-fiction, comme tu l'as expliqué, et aussi dans le domaine de la marionnette. J'ai publié aussi des livres dans ce domaine. Voilà, donc pour ce qui est du. Peut-être voilà, de mon parcours littéraire en science-fiction, pour préciser, on peut dire que c'est une vocation peut-être un peu tardive, hein, puisque j'ai écrit mon premier roman à la fin de la trentaine. Voilà, mais bon, j'ai débuté, on va dire, enrichi de tous ces univers dans lesquels j'ai évolué. Et parmi ces univers, je pense que c'est très important de rajouter l'univers de la maternité, de l'éducation des enfants. Puisque en fait j'ai eu deux enfants et je me suis consacrée corps et âme en fait avec passion à leur éducation donc ça pendant une grande partie de ma vie et donc c'est d'ailleurs probablement la raison pour laquelle j'ai commencé à écrire assez tardivement et que je n'ai peut-être pas non plus investi autant d'énergie qu'il aurait fallu dans mon activité d'écriture voilà que dire d'autre c'est tout.
La maternité prend beaucoup de temps, mais est très peu reconnue par notre société
Oui,
finalement. C'est
c'est bien dommage, c'est tellement
oui,
riche.
et oui. Puis on en acquiert des compétences, mais bon,
Ouais.
C'est comme ça pour l'instant, ça va peut-être changer.
Oui, c'est tous les métiers, on exerce tous les métiers à la fois, infirmière, psychologue.
Avec des responsabilités sans prime, si je peux dire. Et en fait, justement, je voulais te demander par rapport à la science-fiction. On a échangé donc pour préparer cette émission et après avoir discuté longuement avec toi, je me suis dit, mais pour elle, finalement, qu'est-ce que c'est que la science-fiction? Parce que quand on parle, parce que tu as deux aspects dans ton écriture qu'on va développer qui sont très différents, mais qui sont deux aspects assez répandus, entre guillemets, dans la SF, c'est la technologie, les changements sociétaux, la transformation du corps humain, de l'âme humaine, enfin de l'esprit, on dira, pas de l'âme. Et de l'autre côté, ben, ce qu'on appelle un peu vulgairement le space opéra, qui est en fait décuplé aussi par tout ce qu'on découvre actuellement, qui fait que l'imagination est de nouveau dépassé par la réalité avec les exoplanètes qu'on découvre, tous les le système solaire. Et quand tu m'expliquais, tu me disais, ça, c'est de la science-fiction, et non, ça, c'est du social. Alors, est-ce que tu peux en dire un peu avant, pour nous éclairer, si ça t'embête pas?
J'ai peut-être donné cette impression quand je t'en parlais, mais enfin, c'est pas vraiment, il n'y a pas une telle dichotomie en moi. En fait, peut-être que simplement, tu as eu cette impression parce que je suis peut-être venue un peu après à la confrontation avec les autres formes de vie, à l'alien. J'ai peut-être plutôt commencé en fait par ce thème de la technologie, quel est l'impact de la technologie dans la société et sur l'humain. Et c'est assez récent en fait mon intérêt pour les aliens, voilà. Donc pour moi la science-fiction c'est tout ça en fait, hein. Je la découvre petit à petit, hein, en fait. Je pense d'ailleurs à ce que disait, je crois, André Von, si je crois que c'est André Von qui disait qu'il avait écrit plein de nouvelles sur tous les champs de la science-fiction avant de vraiment comprendre ce qui lui plaisait le mieux, ce pourquoi il était le mieux fait. Peut-être que c'est ce que je fais un peu, j'explore les domaines de la science-fiction, mais pour moi, c'est vraiment un ensemble, hein.
Oui, c'est très riche parce que justement, c'est pas, tu n'es pas dans un couloir, dans un silo, si on peut dire, mais effectivement,
Non.
tu ouvres toutes les possibilités et.
J'ai très mal connu en fait la science-fiction, hein, jeune. J'étais. D'ailleurs, sur mon parcours, ça a l'air d'arriver un petit peu subitement, comme par magie. En fait, la science-fiction, on me le dit souvent. D'ailleurs, quand j'ai écrit mon premier roman, c'était de manière très spontanée. J'avais pas du tout. Enfin, j'écrivais pas consciemment de la science-fiction, en fait. Et
Tu parles d'Expéron.
oui, voilà, mon
Voilà.
premier roman, Hespéron. En fait, personne dans mon entourage, quand j'étais enfant, adolescente, me parlait de science-fiction. J'entends souvent les auteurs qui disent, on m'a amené la science-fiction par cette rencontre, par ces personnes qu'on m'a fait rencontrer, ce livre qu'on m'a fait lire. Et moi, j'ai jamais été vraiment poussée à la science-fiction par personne, en fait. Et pourtant, parce que je regarde, quand je pense à mon adolescence, j'ai tous les meilleurs souvenirs en fait que j'ai de lecture et de séries TV, ben c'est de la science-fiction.
Quoi?
Donc je pense que c'était en moi. Ah oui, j'ai adoré les Barjavel, La Nuit des Temps, les Huxley, Le Meilleur des Mondes, Fahrenheit 451. Enfin, et j'ai aussi, je ratais jamais un épisode de Cosmos 99, de tous
Oui.
ces séries en fait. L'homme qui valait 3 milliards, tout ce qui est, voilà, La Planète des Singes, L'Incroyable Hulk. Donc c'était vraiment le must pour moi. Donc je pense que tout ce qui est fiction spéculative, en fait, ce qui est vraiment SF, c'est ça, c'est la SF, c'est le et si. C'est vraiment ce qui me séduit le plus, en fait. Et en plus, l'anticipation, ça correspond à ma manière de penser. J'aime beaucoup me placer dans le futur, anticiper ce qui va se passer, anticiper les mutations sociales. Et en
Oui.
projetant, je trouve qu'on peut vraiment aborder en profondeur les thèmes qui nous préoccupent, comme l'égalité homme-femme, effectivement la maternité dans mon roman Hespéron, tous ces genres de sujets, l'envahissement du numérique, etc., la confrontation avec l'altérité.
Et oui, donc en fait, quand même, tu as inconsciemment baigné dans la SF, mais c'est resté sous-jacent, ça a mûri, puis
Voilà.
un jour c'est ressorti.
En fait, ça me convenait, je pense,
Ouais.
que ça me colle à la peau. Et j'ai peut-être la vie a fait en sorte que j'ai mis beaucoup de temps à le réaliser, à le concrétiser. Et à mon côté scientifique aussi, hein, qui
Oui, tu
m'a
n'en as pas
poussé.
du tout parlé, justement. Tu es une
Voilà, il m'a
scientifique d'abord.
poussé. Voilà, il m'a poussé à me questionner
Oui.
très très tôt en fait, hein, sur la science et sur l'utilisation qu'on en fait en fait. Dès mon entrée en classe préparatoire, en fait, j'étais choquée tout de suite parce que je trouvais enfin, de voir à quel point on sacralisait les maths et la physique. En fait, hein, on nous répétait dans ces classes-là qu'on était l'élite, que les ingénieurs c'était l'élite, alors qu'en fait, bah, on avait tout abandonné. En fait, on faisait plus du tout d'économie, de philosophie. Enfin, on avait un cours de philosophie, mais voilà, c'était 1 heure ou 2, et puis il y avait un examen ridicule au bout. Donc, je crois que ça s'est un petit peu amélioré aujourd'hui, mais c'est quelque chose qui m'a frappé très très tôt. Voilà.
Oui, pour faire ce qu'on appelle l'honnête homme ou l'honnête femme, quoi. Il faut
Voilà.
avoir une culture un peu
Voilà.
élargie, mais c'est pas
Et puis
un
le
choix.
pourquoi de la
Oui.
SF aussi, je peux parler de la marionnette.
Oui,
Parler du côté scientifique, bah oui.
vas-y.
Parce que bah, pour moi, la marionnette, bah, c'est en fait, elle est. Enfin, évidemment, il faut la sortir du contexte enfantin auquel beaucoup de gens la cantonnent. Hein. Mais pour moi, la marionnette est très proche de la science-fiction, en fait.
Ah,
D'abord,
pourquoi?
ben parce qu'en fait, elle est un peu comme un robot. En fait, elle est comme un robot. C'est une métaphore de la condition humaine.
Oui.
Comme un robot, elle questionne le rapport de l'homme à l'éternité. Elle a la mort derrière elle, hein, contrairement à l'homme. Et plus comme un robot, plus elle ressemble à l'homme et moins l'homme l'accepte. C'est la théorie de la vallée de l'étrange. Je ne sais pas si tu connais.
Non, non, parle-nous.
Il s'appelle Masahiro Hiro. Et donc sa théorie, c'est que plus en fait l'artefact va ressembler à l'humain, l'artefact, c'est pas le bon mot, enfin le
L'objet, oui,
personnage va
le
ressembler à l'humain,
personnage.
l'objet, et plus l'homme va être déstabilisé, va trouver ça étrange, ça va le mettre mal à l'aise. Et dans l'espèce de schéma donc qui dessine cette vallée de l'étrange, il met la marionnette Bunraku au même titre que le robot. Le robot
Ah
qui
oui.
va ressembler évidemment, qui va avoir des traits vraiment, vraiment très proches de ceux des humains. Ça crée un sentiment, voilà, de malaise. Et en moi-même construit une marionnette Bunraku. Et ben, j'ai pu le vérifier parce que cette marionnette, elle met les gens mal à l'aise en fait. Il y a des fois une réaction carrément de rejet quand ils la voient. Je peux
Ah
la montrer
oui.
là
Oui,
si tu
vas-y, c'est pas celle que tu veux nous montrer à la fin.
Non, non,
Non,
non, mais
non, alors vas-y,
j'en ai
vas-y.
plusieurs dans le
Parce
bureau.
qu'on a, voilà, on a des surprises.
Hein. Attends, il faut que je l'attrape. Alors. Voilà.
Ah oui, effectivement. Mais elle est magnifique, hein. C'est toi qui l'as fabriquée.
Oui.
Et elle est
Alors.
expressive.
Voilà, il est très humain.
Ouais. Et en étant très épuré, très
Oui.
effectivement. Ah oui. C'est impressionnant, c'est vrai. Ça,
Voilà.
c'est. Oui, bah écoute.
Voilà, bah, de toute façon, il y a des liens, hein, d'autres liens, hein, entre la marionnette et la science-fiction. Il y a eu des séries, hein, de SF où il y avait des marionnettes. Il y a eu les Sentinelles de l'air, là, une série qui était faite par un couple britannique, et il a fait des marionnettes extraordinaires. C'est un procédé qui s'appelait la super marionnation, super marionation. Et les marionnettes étaient manipulées par des fils très très fins et qu'on ne voyait pas donc. Et d'autant, ces fils étaient conducteurs, il y avait des moteurs dans la marionnette qui leur faisaient bouger la bouche au bon moment. On peut voir ça sur YouTube, hein, parce qu'en
Ah
fait, il
oui,
y a
j'ai vu.
énormément en fait, de gens qui ont utilisé ce système de marionnettes après, et même les Japonais. Ils avaient fait une série Bomber X, où il y a des marionnettes, enfin, c'est que des marionnettes, les personnages. Donc ça se marie bien avec la science-fiction. Il y a le roman aussi Onfirio de Jack Vance, où il y a un personnage qui a un petit théâtre de marionnettes vivantes. Et vraiment, ce qu'il dit à propos d'elle est fascinant parce que c'est des marionnettes qui, petit à petit, se rendent compte qu'elles sont réelles, qu'elles prennent conscience du monde autour d'elles. Et puis quand elles font ça, eh bien, il faut les tuer. Il faut s'en
C'est merveilleux.
débarrasser. Et c'est un peu comme l'androïde, en fait, qui va devenir trop humain et dont on va devoir se débarrasser parce qu'il peut devenir un danger. Donc, il y a vraiment beaucoup de choses en commun.
Donc, la marionnette.
Oui, il y a des marionnettistes qui font de la science-fiction. Ça existe.
Écoute, on va aller regarder ça sur YouTube, parce qu'effectivement,
c'est
un aspect que je ne connaissais pas du tout, donc que tu me fais découvrir.
Ouais. Il y a René Laloux qui a fait les magnifiques animés Gandhar, d'après l'œuvre d'Andrevon, et L'homme sans série, là, d'après l'œuvre de Vulle. Bah, lui aussi, c'est pareil, hein, c'est un marionnettiste au départ, et c'est énormément intéressé à la science-fiction. Il y a quelque chose d'ailleurs de très marionnettique dans ces animés, qui sont splendides. Hein. Ouais.
Ben maintenant, on va passer à l'écriture de textes, du coup,
Oui.
l'écriture des textes. Et en fait, la question, c'est, je voulais te demander, tu es novelliste,
Oui.
tu es novelliste ou no novelliste, tu es aussi romancière. Et j'aurais bien aimé que rapidement, tu nous dises un petit peu si c'est différent quand tu écris, comment tu écris les deux, que tu nous parles de ton roman. On avait donc le roman, excuse-moi, pas Espérons l'autre,
C'est 11 septembre.
Le 11 septembre 2061, il faut que je comprenne pourquoi je n'arrive pas à
Ah, parce
retenir
que
ce
c'est une
titre.
catastrophe, donc tu n'as
Il y
pas
a un
envie d'en
très.
parler, je pense, c'est ça.
Non, pas du tout, en plus. Pas du tout. Vraiment pas. Plutôt dans ma tête
Non,
que
pas
ça
le
devrait
roman,
être
mais
dans ma tête.
l'événement.
Ah, l'événement, oui, l'événement,
Oui.
oui, c'est Et bah écoute, vas-y, si tu peux développer un peu ça, enfin ce que tu as envie de
Donc,
dire,
en
quoi,
fait, tu
par
voulais
rapport.
savoir si j'avais une différence entre la nouvelle et
Quand,
le.
voilà, quand tu écris une nouvelle, quand quelle est l'approche, mais du coup, en tant que créatrice, en tant que raconteuse d'histoire, quand
Ben
tu
en fait, c'est
racontes.
marrant parce que la nouvelle, ça, cette histoire de raconter des histoires, j'ai toujours pris ça de manière très ludique, la nouvelle. Je pense que la différence entre la nouvelle et le roman, c'est que je prends le roman plus au sérieux, en fait.
Ah bon?
C'est un tort. Parce qu'en fait, j'ai souvent, pratiquement toutes mes nouvelles, elles sont issues d'appels à texte. Parce que
Oui,
j'ai
c'est ça.
parfois, en
Ah
fait,
oui.
voilà, l'idée qu'il y a un thème comme ça qui est lancé, qu'il y a plein d'auteurs qui s'échinent à le traiter de la manière la plus originale possible. Ça me séduit comme un jeu, en fait, comme une énigme à résoudre. Bon, il faut bien sûr que le thème me plaise, hein, qu'il rentre un peu en résonance avec des sujets qui me tiennent à cœur. Mais si c'est le cas, et si je ne suis pas disponible sur le moment, je pourrais écrire la nouvelle bien après l'apparition de l'anthologie de la texte. Mais dans l'avenir, j'aimerais bien me dégager en fait de me détacher de cet exercice de l'appel à texte parce que j'aimerais m'investir pleinement dans l'écriture des nouvelles.
Oui.
J'ai énormément d'admiration pour des auteurs comme Sylvie Lainé, comme Ted Chiang, comme Greg Egan ou Philippe K. Dick, parce qu'ils vraiment ils portent ils écrivent des nouvelles qui sont extrêmement puissantes en fait, extrêmement riches et qui sont porteuses d'un roman en fait, hein. Elles portent en elles des romans. J'aimerais voilà, développer mon intérêt d'écrivaine pour ce petit format, réussir à me mobiliser en fait sur des nouvelles et des novellas comme je me mobiliserais sur un roman. Ça, c'est un projet. C'est vrai que je me mobilise beaucoup plus sur un roman. Après, bah, comment je travaille sur un roman, c'est un peu la même chose que sur une nouvelle en plus simple en fait. Hein, en plus, le point de départ, c'est souvent une situation, un ensemble de possibles. En fait, qui sont provoqués par une nouvelle technique imaginaire ou effectivement la confrontation avec d'autres formes de vie ou autres, en fait. Hein. Et à partir à ce moment-là, donc, les enjeux humains se dessinent dans ma tête. Il y a des personnages qui apparaissent quand ces enjeux se précisent. Et puis, il arrive que ce soit le contraire aussi. Ça peut être un point de départ, ça peut être un ressenti, un point de vue humain, un trait sociétal humain que j'ai envie d'explorer. Et donc, j'ai envie de projeter dans le futur en le confrontant à des évolutions techniques imaginaires, à d'autres formes de vie, autre chose. Dans l'exemple de mon roman, voilà, pour parler de mon roman en septembre, on est plutôt dans ce deuxième cas, en fait. C'est la vision des attentats du 11 septembre à travers le prisme de l'humain, en fait, qui a été mon point de départ. Je voulais questionner cet événement, voilà, examiner les ravages que ça avait fait dans l'intimité des esprits. Mais je voulais pas faire une uchronie, parce que c'était trop tôt, même 10 ans après, c'était trop tôt, il y avait toujours plein de théories du complot qui
C'est vrai,
pullulaient.
c'est sûr.
Voilà, et donc c'est vraiment le côté humain qui m'est apparu d'abord, c'est une famille new-yorkaise qui m'est apparue, 3 générations d'une famille new-yorkaise, dont la première, en fait, aurait été frappée de plein fouet par les attentats. Et ensuite seulement, voilà, j'ai une technique du futur qui est apparue, qui me permet donc l'évulsion, qui permet de récupérer l'ensemble des souvenirs d'une personne au moment où elle meurt. Parce que quand on meurt, on voit défiler toute notre vie. Donc là, c'est un procédé qui permet de tout récupérer. Mais seulement au moment où on meurt, en fait. Et donc, le résultat, ça a été un thriller, voilà, de science-fiction, dans lequel un membre de la famille, ben, se jette dans une quête désespérée et perdue d'une vérité possible sur 11 septembre, en fait. C'est, voilà. Mais bon, je précise, hein, pour les éventuels lecteurs, que ça n'a rien à voir avec les théories du complot.
Oui,
c'est plus un aspect uchronie sans être une uchronie, quoi.
Oui, on est dans la littérature, là.
Voilà, voilà.
Ouais. Donc, tu peux nous rappeler où, le titre complet et l'éditeur, parce que je pense que
c'est 11 septembre 2061 aux éditions Reuss.
Reuss.
Voilà.
Voilà. Donc, qu'on
trouve. Bon, après, quand pour continuer une fois que pour continuer sur la méthode, hein, une fois qu'il y a eu toutes ces idées, ben, j'ai les grandes lignes de l'histoire qui apparaissent. Hein, elles sont toujours insuffisantes au début, évidemment. Mais je compte toujours beaucoup sur le côté humain, ça, je pense que c'est caractéristique de mon écriture. Je compte sur le développement des personnages, en fait, de leur histoire, des interactions qu'ils ont entre eux, de leurs failles, de leurs intentions, voilà, leurs besoins, etc. Et là, du coup, en fait, c'est eux qui enrichissent l'intrigue, en fait, et des lignes d'intrigue secondaires apparaissent. Plus j'apprends à les connaître, en fait, plus l'histoire s'enrichit. Voilà. C'est une sorte de travail en spirale. J'ai pas une ligne comme ça. Défini d'intrigue brute, voilà, linéaire, fixée. Il peut y avoir des rebondissements jusqu'au dernier moment. Bah, je ne sais pas si ça donne une idée. Enfin, je trouve c'est toujours très difficile
à expliquer. Si, tout à fait. Surtout que quand on t'a lu, on sait que effectivement, tu pousses très loin la psychologie des personnages, tu le développes bien, ce qui peut être un manque parfois dans la science-fiction. Tu restes pas en surface et c'est l'intérêt aussi, c'est que il y a beaucoup je sais pas comment dire, mon ressenti de lectrice, c'est qu'il y a beaucoup de sentiments, beaucoup de sensualité, beaucoup de rebondissements, effectivement, que les gens ont leurs propres calculs et que ça raconte l'histoire, ce qui fait qu'on n'est pas, c'est pas téléphoné, si on peut dire, c'est pas téléguidé. Ça reste du roman d'aventure et que ce soit spirituel ou technologique, finalement. C'est touchant souvent.
Et oui, il y a le côté scientifique qui se développe aussi, qui est fort pour moi, parce qu'évidemment, en parallèle, il y a tout le travail de documentation. Quand on a une idée voilà, d'une technologie future ou même de confrontation avec un extraterrestre, il y a toujours le travail de documentation qui permet de nourrir aussi, d'alimenter tout ça.
Oui, d'alimenter l'imagination aussi.
Oui, voilà, voilà.
Alors là, on va passer à une autre, à une de tes thématiques, parce qu'en fait, comme je t'avais dit, j'ai lu tes nouvelles et tes romans, en fait, il y a quand même deux grands pôle, si je peux dire, deux grands points puissants. Il y a un, c'est tout ce qui concerne la société dont tu as parlé plus tôt, l'humanité, comment elle peut être transformée ou abîmée ou gênée ou envahie par toutes sortes de technologies, que ce soit des technologies. Et de l'autre côté, l'altérité, la découverte de quelque chose de plus, qui est de plus imaginaire, si on peut dire, c'est on va sur une planète et on rencontre une autre sorte de vie. Donc, ce sont deux points forts que tu as qui sont différents quand on lit les textes, mais qui, donc, j'aimerais bien qu'on en discute et que surtout, on découvre tes textes.
D'accord.
Voilà. Donc, c'était l'idée qu'on pouvait lire. Déjà, tu peux nous parler un petit peu de cette thématique. Donc, la première, c'est tout ce qui est technologie, transhumanisme, intelligence. Enfin, je peux les lancer comme ça.
L'impact de la technologie sur l'humain. Voilà,
qui est notre présent, finalement, les choses deviennent d'une façon assez terrible, réaliste. Oui. Et que tu nous dises, y a deux textes qu'on avait trouvés dans deux... Un dans une anthologie et l'autre dans une anthologie aussi, je crois, non? Qui sont donc Robots joueurs dans Traîtrise sidérale, donc le
Oui.
recueil Traîtrise sidérale que toi tu qui est en fait une voilà, je l'ai aussi
C'est une couverture de Zariel,
voilà, qui est un très beau
peinture
livre.
Zariel.
Chez Royce aussi. Et puis l'autre, c'était chez Nutiship, autour de la thématique du Petit Prince.
D'accord. Donc,
Et là
tu
est une
veux que je parle
anthologie.
d'abord de la thématique ou que je lise une
Oui,
nouvelle
parle de la
histoire?
thématique, comme ça après on finit sur le texte et après on rebondira sur l'autre partie. On essaye d'avoir une illustration.
D'accord. Ben
Parce que ce que tu as oublié de dire, c'était aussi que tu étais comédienne.
Ah, si, je l'ai dit au début.
Tu l'as dit, mais très
J'ai dit
vite.
que j'avais fait plein de métiers, dont
Voilà.
comédienne.
Donc.
Ce dont on n'a peut-être pas parlé, c'est les festivals et les.
Oui.
Parce que c'est vrai que je m'implique dans les festivals et j'ai participé à l'organisation de la convention de. Me semble peut-être en parler tout à l'heure.
Oui, on
Donc,
a le temps
Métanger.
encore, oui.
Voilà. Donc, en fait, bon, là. La question de l'impact de la technologie sur l'humain et sur la société est très vaste, évidemment, et c'est quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que je trouve que ces 20 dernières années, on va dire, l'évolution technologique, en particulier numérique, elle a été fulgurante, en fait. Elle nous a changé, elle nous a changé profondément, je trouve. Elle a changé notre société, notre manière d'apprendre, de communiquer, d'être présent au monde, hein. Et c'est loin d'être fini, je pense. Enfin, à moins qu'il y ait une catastrophe climatique, que la catastrophe climatique qui nous attend en tournant, en fait, mette un coup de frein, un sérieux coup de frein à tout ça, à toutes ces transformations. Voilà, ça ne va pas s'arrêter. Sans même parler forcément de transhumanisme débridé, hein, simplement les progrès en nanotechnologie, en génétique, en neurosciences, en robotique, en informatique, etc. Eh bien, tout ça, c'est des travaux qui s'annoncent, des progrès qui s'annoncent déjà. Ils vont continuer à nous modifier. Nous et puis notre environnement. Et on en tirera des bénéfices, bien sûr. Il ne s'agit pas d'être complètement alarmiste, mais avec à la clé, il y a une perte évidente de liberté, en tout cas de respect de l'individualité. Parce qu'on est déjà traité comme des produits, hein, on est des produits, nos données personnelles, elles sont stockées, scannées, utilisées, vendues. Sans même qu'on puisse maîtriser le processus, en fait, hein, ou alors au prix d'efforts tellement énormes qui sont incompatibles avec notre vie sociale, notre vie personnelle, en fait, notre vie quotidienne. Voilà, donc pour moi, je crains beaucoup que toutes ces intrusions dans notre vie privée, dans notre intimité, en fait, notre intimité cérébrale, hein, notre intimité voilà, familiale, voilà, physique, ça ne cesse, en fait, de gagner du terrain et ça de manière presque automatique, en fait, comme sans qu'on s'y oppose, sans qu'on le réalise vraiment, qu'on en mesure les pleines conséquences au niveau social, au niveau humain, au niveau. Pour donner un exemple, le cas tout simple du GPS, par exemple, on est ravis parce qu'on n'a plus du tout à se diriger, on est déchargé, en fait, de la nécessité de s'orienter. Et en fait, en même temps, on ne réalise pas qu'on est dépossédé, en fait, de notre aptitude à le faire. Parce que, en fait, quand on nous donne quelque chose, on perd quelque chose. On ne réfléchit pas, en fait, au coût que va avoir une technique avant de l'adopter. Donc ça, c'est vraiment ce qui me tracasse le plus. Et ce qui me fascine encore plus, c'est vraiment l'impact sur le cerveau, en fait, sur le fonctionnement de notre cerveau, sur nos capacités cognitives, notre humeur, le stockage des informations qu'on fait dans notre cerveau, notre concentration. Dans mon premier roman, Expéron, là, c'est un petit garçon, ne s'exprime plus qu'avec des images, en fait. Il a choisi un type d'image pour se nommer lui-même. Donc, c'est une espèce de mutation qui survient dans un avenir proche, là où l'image, commence à vraiment prendre le pas sur le mot, ce qui est déjà un peu le cas maintenant. On le voit dans les informations, on met des films, des images maintenant, les articles sont de plus en plus courts, hein. Voilà, donc la question de l'intelligence, je trouve, est particulièrement fascinante. On a les Chinois à l'heure actuelle, hein, qui réfléchissent à augmenter le QI de toute leur population. Voilà, est-ce qu'avoir un QI moyen de la population plus élevé, est-ce que c'est forcément mieux?
Oui.
J'ai été très marquée par le roman Barrière mentale de Paul Anderson, une espèce de manifestation cosmique qui rend tout le monde plus intelligent. En fait, je crois qu'ils rendent l'intelligence que les gens ont perdue, en fait, parce qu'il y avait eu une autre manipulation, un autre événement cosmique qui avait fait qu'on l'avait perdue. Et donc, ça change complètement le monde, et c'est pas forcément pour le mieux. Donc voilà, avoir un QI plus élevé ne rend pas forcément plus heureux, voilà, par exemple.
Non, ni forcément plus intelligent. Parce
ni
que
forcément
ça
plus
dépend
intelligent au
ouais.
sens large de l'intelligence, voilà, qui était quelque chose de très compliqué. Et voilà, donc d'ailleurs, c'est le thème d'une de mes nouvelles. Je ne dirais pas laquelle, sinon ça va chier, comme on dit. le secours même de l'intelligence artificielle aussi, ça peut avoir un effet délétère quand on a continué à dialoguer, par exemple. Avec un être aimé qui serait mort, on sait que ça va probablement être bientôt possible, donc mort physiquement, mais qui continuerait à exister, les conséquences psychologiques sont forcément très lourdes. Voilà, donc bref, il y a beaucoup de mes nouvelles qui tournent autour de ce genre d'inquiétude.
Mais
et c'est
pas
vrai
tout.
Qu'elles déroulent dans la famille.
En plus, oui, tout à fait.
Parce que c'est le cœur de la société pour moi, la famille. C'est vraiment l'endroit où, voilà, c'est le noyau à observer de près. Pour observer les mutations de la société.
Et du coup, je retrouve pas là. Je cherchais, mais j'ai lu dans le, je crois que c'était dans Le Monde aujourd'hui, que le Chili vient de voter une loi justement pour protéger, je crois, le cerveau dans cette, et il voudrait que ça rentre dans les droits humains. Donc, je n'ai pas le contenu de ce
Ah, c'est
texte,
tout
mais
récent.
je recherche parce que c'est tout récent là. Je l'ai trouvé.
C'est urgent en fait, oui, ce genre de loi, je pense.
Voilà, alors maintenant, si tu nous lisais.
Alors, je vous lis lequel en premier, tu
Eh
veux.
bien, commence par Robot Joueur. Le robot joueur. Donc, en fait, l'idée, c'est que tu ne vas pas nous lire les nouvelles, c'est court.
Je lis le début en
mais
fait,
tu
hein,
lis
comme
le
ça ne
début, comme
divulgage
ça tu
pas.
nous emmènes. Voilà, et tu ne divulgages pas, mais tu nous
Ça
emmènes
ne
quand même.
dévoile pas le secret de l'intrigue
Voilà.
pour parler vraiment français.
Voilà.
Et voilà.
Ouais, les Canadiens se défendent.
Un robot joueur. L'intimité douillette du salon démodé avait volé en éclats. Assise sur l'appui-bras du canapé, Iris observait de son œil noir la foule sombre et compassée qui s'enroulait autour de la table en salivant. D'un regard furtif, maris et femmes, parents et enfants, se consultaient. Non, il était encore trop tôt pour les amuse-bouches et les petits fours, trop tôt pour oublier le mort. Alors chacun continuait à le couvrir d'éloges, le visage tendu sous l'effort. Quel brave homme, n'est-ce pas? Toujours prêt à rendre service. Et si jeune d'esprit, malgré son âge, à croire que sa passion du jeu le préservait. Oui, il n'en avait gardé que le meilleur. Une grande âme, vraiment. Pâles et fatiguées, les filles du défunt circulaient, un plateau à la main. Vin rouge, vin blanc, jus de fruits, limonade. Savourant à petites gorgées ce délicieux retour à la vie, les gosiers se détendaient discrètement, laissant de temps à autre échapper quelques syllabes sonores qui détonnaient comme des fausses notes. Sèche tes larmes, Agathe! « T'as les yeux tout bouffis !» lança brutalement Iris à sa grand-mère, qui pleurait à petits sanglots à côté d'elle, enfoncée dans le canapé. Sursautant à l'injonction, la vieille dame baissa un instant ses paupières gonflées, puis se tourna avec effort vers l'adolescente. Le menton levé dans un geste de défi, celle-ci glissa la main dans celle d'Oscar, à un androïde d'une blancheur immaculée qui se tenait debout à ses côtés. Tout sourire, le robot resserra ses phalanges métalliques avec délicatesse. Hors de ma vue ! Chevrota la grand-mère tout de go. Débarrasse-moi de ce tas de ferraille ! Aussitôt, le murmure des conversations s'interrompit et l'on se pressa autour d'Agathe, dont les pleurs s'intensifiaient. Abandonnant son plateau sur une table basse, Bérangère s'était précipitée dans l'espoir d'étouffer les sanglots de sa mère en même temps que les questions. Mais celles-ci fusèrent des bouches déliées par le vin, et la jeune femme dut raconter à des inconnus, ex-amis, ex-collègues, que son père s'était éteint en serrant la main d'Oscar. On ne pouvait plus les séparer, hoqueta Agathe, la voix brisée. N'y pense plus, maman, souffla Bérangère en faisant signe à sa sœur d'emmener la vieille dame à la table. Va plutôt manger quelque chose avec Elsa. J'ai fait les roulés au chorizo que tu aimes tant. Assaillie par l'enthousiasme d'un jeune cousin que la scène fascinait, Iris n'avait pas bougé d'un pouce. Oui, c'était le robot de Louis, le mort. Non, Elle n'autorisait personne à le toucher. Pourquoi Agathe ne l'aimait pas? Parce qu'elle était jalouse, tiens. Chanter, jouer, câliner, soigner. Oscar faisait tout mieux qu'elle. « Iris, s'il te plaît !» ordonna Bérangère à sa fille. « Emmène cette machine là-haut. » « Oscar !» aboya l'adolescente en se levant d'un bond. « Il s'appelle Oscar !»« Et toi, reste là !» ajouta la jeune femme à l'intention du garçonnet qui faisait mine de leur emboîter le pas. Serrant toujours la main du robot, Iris traversa le salon sans même un regard pour son père. Un grand homme raide et grisonnant qui s'était approché et digérait en soupirant les dernières paroles de sa fille. Agacée par la seule vue de son ex-mari, Bérangère s'efforça de l'éviter, mais il la rejoignit à grandes enjambées alors qu'elle s'apprêtait à reprendre son plateau. « Juste un mot, » murmura-t-il très vite. « Inutile de te fatiguer, Hugo, » répliqua-t-elle du tac au tac. « Tu n'auras pas le robot. »« Comment, mais ?» balbutia-t-il, désarçonné. « Puisque ni toi ni ta mère ne voulaient le garder, Iris apprécierait de le retrouver chez moi, non ?» La jeune femme le toisa, en proie à une colère soudaine qui contractait sa mâchoire. « Après me l'avoir reproché pendant tant d'années, tu souhaites que notre fille continue à passer du temps avec ce robot ?» gronda-t-elle d'un trait. « Pourquoi pas, à présent que le mal est fait ?» s'exclama le père d'une voix un peu trop aiguë. Bérangère lui tourna le dos sans répondre et, les épaules agitées d'un tremblement, vida un verre de vin blanc, puis un deuxième, sous le regard stupéfait des autres environnants. « Comment ai-je pu épouser ce sale type ?» s'interrogeait-elle en déglutissant la poitrine serrée. Il ne souhaitait bien sûr récupérer le robot que pour qu'Iris choisît enfin de vivre avec lui. Dans son pauvre cerveau de mal obstiné, la santé mentale de sa fille passait bien après ce misérable triomphe. D'un geste mal assuré, la jeune femme se saisit du plateau et fit volte-face dans un tintement de verre. « Demain, ce satané robot sera détruit », assena-t-elle à son ex-mari en détachant chaque syllabe. « Décapité, démembré, exactement comme ma mère l'a décidé. » Bon, je m'arrête parce que c'était trop long, non ?
Là, tu nous as emmenés dans une drôle de veillée funèbre. Bah écoute, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va changer d'ambiance, j'imagine.
Oui.
Là, c'est le petit prince.
Ah, tu veux que je lise le petit prince ?
Oui, bah, puisqu'on est sous le charme, autant continuer à écouter.
Ok. Alors, c'est une nouvelle donc, qui est apparue dans l'anthologie Dessine-moi 1. Donc, bien sûr, sur le thème du mouton.
Le mouton, oui.
Voilà. Donc, paru aux éditions Nutiship, c'est une... une anthologie qui a été réalisée par Chantal Robillard.
Oui, qui est aussi une nouvelliste qu'on connaît bien, et romancière aussi. Mais...
Voilà. Alors, je pense que c'est une nouvelle, j'y ai réfléchi après coup, qui m'a été inspirée par une nouvelle de Pierre Bordage, dans un recueil de nouvelles qui s'appelle Nouvelle Vie TM, qui est intitulé la classe de Maître Yoda, parce que c'était une leçon en fait virtuelle. Bon, moi, ce n'est pas du tout le même sujet, mais je pense que ça m'avait marqué. C'est une excellente nouvelle.
Eh oui, sans doute.
Alors, ça s'intitule « Promenez-vous avec le petit prince ». Par une rotation de son fauteuil Levmag, Célina s'assura de la connexion de ses 10 jeunes élèves, dont elle avait choisi de disposer les hologrammes autour d'elle. Tous, sauf Wilfried, un enfant blond aux traits délicats, poursuivaient avec indifférence leurs activités en cours, habitués à savourer leur temps libre jusqu'au dernier instant. À 9h pile, la jeune institutrice prit le contrôle de leur surface sans préavis et les protestations habituelles fusèrent. « Oh non, j'avais débusqué les Fremen ! Encore une seconde et je tuais tous les dragons !» Puis le calme s'installa peu à peu, tandis que le petit groupe prenait connaissance du premier sujet du jour. « Encore un animal disparu !» interrogea une fillette d'une voix boudeuse. « Désolée, Chloé, il est au programme, » répondit Célina avec un soupir. Les directives visant à garder un œil tourné vers le passé l'agaçaient tout autant que ses élèves, mais elle était par trop scrupuleuse pour s'en affranchir. Son unique révolte consistait à ne fournir qu'un minimum d'efforts pour traiter les sujets imposés. Ainsi s'était-elle contentée d'une rapide recherche sur le thème du mouton, sélectionnant au hasard un ouvrage parmi la multitude proposée. À peine l'avait-elle fait apparaître sur les surfaces des élèves qu'un concert de grognements et d'exclamations suppliantes se fit entendre. « Pitié, maîtresse, pas un vieux livre !» Célina laissa les enfants se lamenter un moment avant de leur donner accès au live book correspondant. Promenez-vous avec le petit prince. Oh, merci maîtresse, s'exclamèrent-ils en chœur. Et sous le regard alerte de la jeune femme, qui suivait leur progression sur sa propre surface, ils naviguèrent quelques minutes d'un décor 3D à l'autre, découvrant les personnages à leur gré, prêtant ça et là l'oreille à des bribes de conversation. « Maîtresse, c'est quoi un baobab ?» demanda l'un des garçons. « Un gros arbre, » répondit Célina. « Il a disparu avec le réchauffement climatique. »« Ben dis donc !» s'écria l'enfant. « Tout a disparu dans cette histoire !»«
Dommage que le livre n'ait pas disparu lui aussi, » marmonna Chloé.
L'éclat de rire général emporta même l'institutrice. Comment sermonner une fillette qu'elle comprenait si bien ? Elle-même avait hâte de clore cette lecture introductive pour passer à l'étape suivante, une sortie IRL qui se substituerait à merveille à l'heure didactique et dont l'annonce allait arracher à sa petite classe des cris de joie. « Bon, » dit-elle en consultant sa surface, « on dirait que vous avez tous fait connaissance avec le mouton. »
« Oui, » acquiesça Wilfried de son ton timide, « il ressemble à un caniche. »
« Bien !» me félicita-t-elle. « Mais tu n'étais pas obligée de rester si longtemps dans le même décor. Pourquoi n'es-tu pas allée te promener sur l'un des astéroïdes ?»«
Je voulais voir le mouton dans la boîte, » expliqua l'enfant, « mais je n'ai pas réussi à l'ouvrir. »«
Tu as bien exploré tous les trous et toutes les arêtes ?» interrogea Célina en examinant la caisse en bois.
« Oui, oui. »
Micro-coupure.
Atteint du TEAH, trouble d'attention. Il faut que je m'arrête ?
Non, non, pas du tout. C'est qu'il y a eu des petits il y a des petites micro-coupures. Donc,
D'accord. Ouais,
c'est ça. Mais continue, non, non.
Ah, je comprends. Alors, oui, oui, beaucoup de fois, confessa Wilfried à voix basse. Atteint du TEAH, trouble d'excès d'attention hypoactivité, le petit garçon s'efforçait toujours de ne pas se focaliser trop longtemps sur la même idée, mais la curiosité, cette fois, avait été la plus forte. Surtout quand il avait entendu que le petit mouton s'était endormi. « Ne t'inquiète pas, » le rassura l'institutrice. « Dans le cas d'une erreur de programmation, ton insistance est tout à fait excusable. »«
Ah ? Vous pensez qu'il s'agit d'un bug ?» interrogea l'enfant en ouvrant de grands yeux. « Moi, je me demandais… »«
Évidemment ! Quelle question !» le coupa Célina. « L'animateur de ce livebook a dû travailler trop vite. »«
Lui, au moins, n'a pas le T-E-A-H, » crut bon d'ajouter Chloé.
« Voilà une remarque qui te coûtera 2 crédits, mademoiselle, » la réprimanda l'institutrice. « À moins que… » poursuivit-elle, comme la fillette baissait des yeux contrits. « À moins que la note du jour soit annulée, suite à une… » Ménageant son suspense, la jeune femme répéta ces derniers mots jusqu'à ce qu'une excitation ravie se peignît sur tous les visages. Une sortie IRL. Voilà.
Voilà, voilà. Bah écoute, on avance dans le temps en fait, mais c'est bien. on baigne dans tes textes et en fait, on va enchaîner sur effectivement l'altérité. Ça, c'était l'aspect plus. Il y a quand même beaucoup d'humour dans ce que tu écris. Vous voyez de l'humour un peu noir et grinçant, mais c'est...
Bah, l'altérité, les aliens, ça m'amuse encore plus. Hein. Je trouve un terrain de jeu extraordinaire hein, pour un auteur de science-fiction, les aliens en fait.
Oui, donc...
c'est un grand plaisir de pouvoir imaginer n'importe quelle forme de vie. En fait, toutes les possibilités sont infinies. Et la littérature de SF en regorge hein, d'ailleurs d'aliens extraordinaires. Dans les lectures que j'ai faites, il y en a qui m'ont énormément marqué, hein, comme Le cristal qui songe hein, de Théodore Sturgeon, ou alors les heptapodes, hein, les heptapodes de Ted Chiang dans L'histoire de ta vie. La nouvelle L'histoire de ta vie qui a donné lieu au film Premier Contact. Puis il y a le sable de Sylvie Lainé dans Sous sable. Ou alors les voix du vent là, de Marion Marion Zimmer-Bradley plutôt.
Oui, je crois que c'est
un peuple qui est translucide en fait, que les humains ne peuvent pas voir et qui se confond avec le vent. Et c'est infini en fait. Même dans notre planète en fait hein, personnellement pour créer des aliens je regarde un peu le terreau biologique de notre planète qui est
oui
on regarde son passé en fait hein, pour s'inspirer
Voilà, et puis en plus, avec un extraterrestre, on crée un ailleurs, on crée un monde où ils évoluent, dans lequel les humains vont se trouver plongés, vont perdre leurs repères. Voilà, donc ils vont être confrontés à de grands périls. Et puis aussi, voilà, un alien peut être bienveillant ou pas, ou alors ne pas être bienveillant, mais sans même le vouloir, en fait. Donc, il y a le choc de culture, et puis évidemment, de forme biologique, un questionnement sur l'homme. Ça permet aussi beaucoup de se questionner sur l'homme, hein, sur son égocentrisme forcené, son envie de conquérir, son côté prédateur, tout ce qu'on peut imaginer, en fait, sa vulnérabilité. Voilà, et donc tout est possible, toutes les explorations, tous les scénarios. C'est ça, je trouve vraiment fascinant. Et puis aussi l'enrichissement qu'il peut y avoir d'une culture à l'autre. La nouvelle de Ted Chiang, l'histoire de ta vie, est totalement extraordinaire, puisque en fait, la linguiste qui apprend à parler avec les heptapodes, en apprenant leur langage, en fait, apprendre leur langage modifie sa présence au monde, modifie sa façon, en fait, de percevoir le monde, de percevoir le temps qui passe. Donc c'est extraordinaire, je trouve. Oui, c'est une nouvelle extraordinaire. Voilà. Ça peut être très drôle, hein, comme on a dit, encore plus drôle. On a les Martians Go Home de Frederick Brown. Ouais. Moi, j'adore son roman L'esprit de la chose aussi, avec cet extraterrestre qui arrive sur Terre. Et il y a une lutte entre l'intelligence extraterrestre et l'intelligence du personnage principal. C'est vraiment génial. Il y a je pense aussi à une nouvelle que j'avais lue dans la grande anthologie de la SF, La couvée astrale. Où la passage d'extraterrestres passe complètement inaperçu sur la Terre parce qu'ils arrivent dans une ferme, en fait, et les fermiers sont assez simples, c'est des gens simples, et donc ils disent oh, « Ok, on va s'occuper de la couvée des extraterrestres », et après ils repartent, et personne n'est au courant de ce qui s'est passé, alors qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire. Voilà, il y a vraiment plein de choses possibles avec les extraterrestres. J'ai écrit un roman, donc mon prochain roman d'ailleurs traite d'une rencontre avec une extraterrestre.
Tu peux nous lire quelques lignes, parce que c'est vrai que là, si on a encore 5-10 minutes, tu peux nous lire un petit peu l'intro
de Dilemme de Bokil,
et puis après on parlera effectivement de ton roman qui va sortir.
Alors, le Dilemme de Bokil. Alors, c'est une nouvelle qui est parue dans l'anthologie Gastronomie du futur, ici, ailleurs et autre part, rassemblée par Pierre Gévard aux éditions Arcuris.
Arcuris, oui.
Voilà, le dilemme de Bokil. Chaque soir, le chef cuisinier Bokil assistait en personne au dîner impérial, sous le dôme vitré du palais. Il se tenait à quelques foulées de la longue table en fer à cheval, face à la plus haute montagne de Slumkor, dont le sommet se perdait dans le crépuscule violet. Terne et mal brossée, sa fourrure fauve faisait pâle figure à côté des somptueux pelages des convives, tous fraîchement toilettés. Lui-même n'avait guère le goût ni le loisir de s'adonner à ce genre de soins, depuis que l'empereur Tarap l'avait autorisé à se joindre aux équipes d'exploration du système Tripian, ses recherches culinaires l'accaparaient par trous. De chaque voyage, il ramenait de nouvelles formes de vie primitives qui, lorsqu'elles s'avéraient comestibles, le plongeaient dans de longs et captivants tâtonnements. En résultaient des exoplats inédits, que l'empereur et sa cour découvraient avec un appétit curieux, heureux d'offrir à leur estomac des émotions extra-slumkoriennes. Les voir ainsi comblés représentait pour Bokil la plus belle des récompenses, et bien qu'épuisé par son travail en cuisine, il n'eut pour rien au monde renoncé au spectacle du dîner, auquel il assistait debout. Le chef en profitait bien sûr pour renseigner les convives sur ses exomets et s'assurer du bon déroulement du service. « Bokil !» le héla ce soir-là Tarap, assis entre l'impératrice et Mazelk, sa maîtresse du moment. « Viens nous parler de ces petits entêtés qui nous chatouillent l'œsophage !» De son bras supérieur droit, l'empereur désignait un saladier dans lequel s'agitaient des boules translucides aux multiples membres équipés de ventouses. En son début de repas, son estomac, comme celui de tous les convives, pendait encore sur son torse tel une outre vide. Mais la remarquable érection de son œsophage, à l'orifice grand ouvert, témoignait d'une faim prometteuse. Il le palpait doucement de ses mains nourricières, comme pour mieux savourer l'affolement des petits aliens qu'il y avait précipités. « Ils viennent de l'exoplanète Ephora, » expliqua le chef en trottant vers eux. « Je les ai batillés les pétillants. »« Vont-ils bientôt cesser de s'accrocher ?» demanda l'impératrice, ses yeux sans trop baissés avec délice vers son œsophage dressé. « Rassurez-vous, ils sont résistants, » répondit Bokil, fièrement. Je les ai choisis et stimulés à dessein. Votre dégustation va se prolonger un moment. Bravo, le félicita Tarap. Cet entêtement en matinée de peur est tout à fait délicieux. Oui, renchérit l'impératrice en tournant ses yeux latéraux vers chacun des deux Somcoriens. Ces pauvres aliens semblent convaincus de parvenir à remonter. Vous êtes un véritable artiste, mon cher Bokil. La narine dilatée de satisfaction, le chef s'inclina vers le couple impérial avec respect, sans se formaliser du désintérêt affiché de la jeune Mazelk. La tête renversée vers l'arrière, celle-ci contemplait le ciel de ses quatre pupilles émeraudes, l'œsophage enroulé tout entier au-dessus de son estomac rétracté. À l'évidence, elle n'avait goûté à aucune des exo-entrées disposées devant elle. Je ne sais pas si je continue, ça va peut-être être trop long.
Non, puis tu vas nous garder, on va garder le secret, là. Il faut le lire maintenant.
Voilà, donc on est sur une planète où la nourriture, le goût de la nourriture, a un impact si ce qui est mangé, en fait, ressent des émotions.
Et voilà, c'est ça.
On trouve tout ça hein, sur Terre, puisqu'il y a des bêtes qui, quand elles sont mangées, produisent des jets d'acide pour que l'animal qui les a mangées vomisse, en fait. Donc, il y a des émotions dans l'estomac.
Oui, c'est donc de toute façon, on part toujours de quelque chose pour inventer.
Oui.
On a nos racines. Et bah, écoute, pour terminer, j'aimerais bien que tu nous parles de ton projet, que tu nous montres. Encore une marionnette, c'est bien.
Alors, oui, c'est un roman court hein, qui va sortir chez Rivière Blanche à la fin de l'année. On est dans l'altérité, donc, puisque l'action se déroule sur une exoplanète qui est peuplée d'extraterrestres. Je peux peut-être vous lire le blurb aux États-Unis, c'est-à-dire la petite présentation, le blurb. Oui.
D'accord, vas-y. Blurbon.
Voilà, le blurb. Donc pour sa première mission, donc l'ethnologue Hannes Lekar a la chance d'étudier une charmante tribu de chasseurs-cueilleurs, seul être évolué de l'exoplanète Gaïta 51C. Plus que leur œil caméléon semblant refléter leurs émotions, leurs quatre trompes aux allures de hautbois la fascinent. Elle rêverait d'analyser les sons discordants qui en sortent avec un linguiste. Mais seul un sergent-chef borné et alcoolique l'accompagne, ainsi qu'une équipe de prospecteurs venus sonder des filons à grand renfort d'explosion. Terrifiés un jour par l'une d'entre elles, les Gaïtiens organisent une fête quasi cathartique à laquelle Anasley et le militaire sont conviés. Une imposante femelle aux allures de chamane, surgit alors et entame une danse des plus inquiétantes, fausse note vite oubliée ou bien prélude à une avalanche de dissonance sur Gaïta. Voilà.
Donc, j'ai fabriqué la femelle.
J'ai m'amusé à fabriquer la marionnette. La gaïtienne. Oui. Voilà, qui donc a des. Colonnes d'air, en fait, elle a deux bouches, hein, une dans laquelle l'air rentre, une circulation d'air, donc elle crée des sons très, très spéciaux. Elle peut aussi manger. Voilà, elle a normalement 8 bras. Hein. Et un œil qui peut changer de couleur.
Du coup, tu as créé cette marionnette après l'avoir
écrite. Après avoir écrit. En fait, j'avais une idée, j'avais fait un dessin et j'ai eu envie de lui donner vie.
Et quand voilà. Tu as imaginé cette créature, avant d'écrire, parce qu'il y a un moment où on doit les inventer, ces personnages.
Oui, en fait, j'avais envie d'un personnage qui produise des sons extraordinaires et que justement quelqu'un ait envie de comprendre ces sons, de communiquer avec eux. Donc c'est parti de là. Voilà.
Et j'ai eu la chance de lire le bêta roman.
Oui, tu as lu la version finale et tu m'as encore fait une remarque très intéressante.
Et surtout, je vous le recommande. C'est un très, très beau livre. Par contre, tu peux nous redire, il sort quand ?
Et il sort à la fin de l'année. Je ne peux pas encore préciser la date précise parce que ça peut encore bouger. Donc, mais bon, c'est à la fin de l'année. Quoi.
Voilà, donc chez Rivière Blanche, qui est un éditeur de...
Voilà.
Voilà.
Tout à fait.
Voilà, voilà. Mais écoute, Moi, je finirais en disant, ben, lisez Hélène Cruciani. C'est la chose la plus importante à faire. Que vous risquez sans aucun doute de la rencontrer dans un festival à travers la France, hein, oui. Les grands comme les nouveaux, comme les. Et c'est un. Effectivement, tu peux nous dire un mot? Est-ce que c'est en quoi ce festival nourrit ce que tu fais avec l'ASF? Est-ce que c'est
bah, pour moi, les festivals, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé.
Mais vas-y, c'est à toi.
En fait, pour moi, les festivals, c'est toujours extrêmement précieux. C'est des événements précieux, qu'on soit organisateur ou simple participant. Ça permet de rencontrer le fandom, de brasser les idées, et puis de découvrir d'autres points de vue sur certains sujets. Et, en fait, au lieu de baigner tout seul dans la SF dans son coin, on bouillonne tous ensemble. Voilà, et je pense que le cerveau emmagasine des éléments utiles pour l'écriture, évidemment. Hein. Et j'ai été ravie de... J'avais déjà participé à l'organisation de festival quand j'étais comédienne, et là, j'étais vraiment ravie de participer à l'organisation de la convention de science-fiction à la BlueCon l'année dernière. Voilà, c'était prenant, c'était enrichissant. Puis on découvre à chaque fois des domaines qu'on ne connaît pas forcément bien. Hein. Là, on a fait une exposition avec Hugo Bellagamba sur les revues et les fanzines de SF. C'est un domaine que je ne connaissais pas très bien. Voilà. Et en plus, le théâtre de marionnettes avait sa place, parce que maintenant, il y a un théâtre avec sa place, le théâtre de science-fiction.
Oui. Oui.
Maintenant, il y a un prix Aristophane de théâtre de science-fiction organisé par Hugo Bellagamba et Pierre Gébard. Et en plus, j'ai eu l'occasion donc, de fabriquer une marionnette encore, hein, qui a joué lors de la représentation de la première pièce lauréate du prix Aristophane, Nul n'est censé ignorer le chat. Et donc, j'ai fabriqué des chats quantiques qui ont joué sur scène. Parce qu'en fait, c'était deux chats identiques, parce qu'il y avait des voyages dans le temps hasardeux, et donc ils se trouvaient dupliqués à un moment donné sur scène. Voilà.
D'accord.
Écoute, donc le théâtre, oui, c'est aussi un de mes projets de m'intéresser de plus près au théâtre de science-fiction. Il y a toujours eu du théâtre de science-fiction, mais c'est vrai qu'on ne le met pas en valeur, on n'en parle pas assez. Et, oui, j'ai écrit un article là-dessus hein, dans une revue, dans le premier numéro d'une revue l'année dernière, la revue What. J'ai écrit un petit dossier sur le théâtre de science-fiction. Et là, récemment, il vient de sortir un grand travail, un grand dossier sur le théâtre de science-fiction, sur l'historiographie du théâtre de science-fiction, voilà, mené par Romain Bionda de l'Université de Lausanne. Donc, c'est apparu pour Res Futurae, en fait. Il a mené ce travail pour Res Futurae. Et voilà, donc, les chercheurs commencent de plus en plus à s'intéresser au théâtre de science-fiction. Moi, si j'avais pu faire une thèse, j'aurais fait sur le théâtre de science-fiction. Mais j'espère que quelqu'un va bientôt en faire une. Je pense que ça ne va pas tarder.
Qui sait?
Voilà. Tout est lié, voilà. C'est le grand message.
Bah écoute, en attendant, continue à écrire, s'il te plaît. Surtout, n'arrête pas d'écrire, même si c'est du théâtre. Et puis, bah écoute, je te remercie de nous avoir d'avoir échangé. C'était vraiment passionnant. Puis, on va s'arrêter là parce que finalement on a fait notre heure.
Oui, moi je te disais, oh là là, c'est trop long.
Et tu vois, on pourrait continuer. Et puis bah, écoutez, l'émission reste visible bien sûr sur YouTube, hein, par le site des Vagabonds du Rêve. Et puis je pense que nous serons amenés à nous rencontrer rapidement sur d'autres choses hein, qui concernent la SF, en tout cas.
Bah, on n'a pas de science-fiction, hein, on peut dire, on organise à Nice des repas de science-fiction où on convie les auteurs de science-fiction, de fantasy. Hein, c'est un des repas SFFF, attention, hein, aussi fantasy, fantastique. Et c'est vraiment très agréable de pouvoir se retrouver. Parce que c'est vrai qu'on est, en tant qu'auteur, on peut être très isolé.
Oui, c'est le problème.
Les festivals, c'est très ponctuel dans l'année et pouvoir comme ça se rencontrer, c'est vraiment un privilège. Et il faut tenir sur ce genre d'événement parce que vraiment ça compte.
Et, oui, et tu te bats bien pour que ça ait lieu, pour que
s'organise. Oui.
Écoute, je te dis ben maintenant au revoir, à très bientôt.
À bientôt.
Et puis encore merci. Hein, et puis je vous le dis, lisez Hélène Cruciani. C'est la chose à retenir de cette émission.
Ah ben j'avais même pas, oui. Il faudrait que j'aurais pu montrer la couverture de nouveau. Mais bon, elle est visible sur le site de Rivière Blanche.
D'accord.
La couverture de mon prochain roman.
D'accord. Bah écoute, on va aller la voir alors. Allez, au revoir à tout le monde.
Au revoir, merci.
À bientôt.
Merci, Tina. Au revoir.
Au revoir.